On annonce que la délivrance de la Ghouta deviendra un événement prophétique dans la ligne des annonces apocalyptiques. Ensuite, Istanbul retournera aux musulmans. Et il y a des gens qui rêvent beaucoup à faire d'Istanbul une ville islamique, c'est-à-dire restituer en particulier le musée de Sainte-Sophie au rite musulman. Bref, cette venue du Al-Mahdi est présente dans l'esprit des gens. Lui-même, sa venue va précéder l'apparition de Al-Dajjal, qui est le... Mais quelle est la traduction exacte? Le trompeur, le menteur ou le... Oui, alors c'est l'antéchrist. C'est l'antéchrist. Alors l'antéchrist, mes amis, on peut broder là-dessus. Donc beaucoup de musulmans prétendent que Obama est l'antéchrist. À notre propre table, j'ai entendu des chrétiens évangéliques qui me disaient qu'Obama était l'antéchrist. Donc accrochez-vous. Et puis ce Al-Dajjal, cet antéchrist, lui, précédera directement la venue de Jésus. Donc la venue de Jésus, fils de Marie, est annoncée dans l'islam, dans le Coran. Voilà. Parlons du monde juif. Alors le monde juif est cadencé par les années sabbatiques, les Shemitah. 2014 était une Shemitah, une année sabbatique. Et sans avoir la confirmation exacte, il est possible que certains considèrent que 2015 est l'année du jubilé. Mais là, je n'ai pas de confirmation exacte. Bref, ce qui est précis alors dans mes sources, c'est que au mois de juin, un rabbin, Rav Rom Shaya, a donné toute une conférence qui disait que le Messie arriverait au moment de la Rosh Hashana de ce mois de septembre. Donc, vous voyez qu'on se rapproche. Et alors, ce rabbin avait un certain nombre de preuves pour annoncer la venue du Messie. Première preuve, c'est que Palmyre a été conquis par le Daesh. Allez savoir pourquoi. Alors, lui a puisé dans des textes, plus ou moins, dans des traditions orales qui rappelaient des textes du rabbin de où on était là-bas. Je ne trouve plus dans mes notes. Bref, qui racontait que la prise de Palmyre signifierait une étape. Ah oui, le Gaon de Vilnius. Il y a une tradition orale qui attribue au Gaon de Vilnius des prophéties qui disent que la prise de Palmyre est certaines étapes dans la venue du Messie. Et puis, la prise de la Crimée par les Russes est aussi une étape dans la venue du Messie. Donc, la Crimée par les Russes, ça vous dit quelque chose? Bref, ce rabbin nous annonce la venue du Messie pour Rosh Hashanah de ce mois de septembre. Donc là, je vous en ai déjà donné trois. Il faut quand même que je vous en donne dans le monde évangélique. Mais comme là, c'est plus brûlant, je serai extrêmement discret. Un certain monsieur a écrit des pages et des pages, des livres entiers pour annoncer le retour de Jésus ou l'enlèvement de l'Église le 14 septembre 2015. Voilà la fièvre eschatologique apocalyptique qui nous entoure. Donc, oubliez tout ça, s'il vous plaît, mais je vous le dis parce que vous êtes des adultes et vous êtes capables d'entendre ça, puis en même temps, mon cœur saigne en entendant des choses pareilles. Alors, je récuse ces approches pour quatre raisons bibliques et quatre raisons théologiques. Alors, quatre raisons bibliques. D'abord, si nous faisons une lecture fine du Nouveau Testament, nous voyons que le Nouveau Testament parle beaucoup plus de la venue de Jésus que du retour de Jésus. Et ce n'est pas par hasard. D'ailleurs, si nous lisons l'Apocalypse, Apocalypse 22-20, celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Amen, répond l'Église, viens, Seigneur Jésus. C'est vrai que Jean 14 parle de Erkomai, Palin Erkomai, c'est-à-dire venir à nouveau. Mais le Nouveau Testament parle surtout de la venue de Jésus, parce qu'en fait, chers amis, Jésus vient toujours. La venue de Jésus, c'est à mettre au quotidien Jésus est toujours en train de venir. Il est toujours en train, alors là on peut conjuguer avec les préfixes, en train d'advenir. Il est toujours en train de survenir. Il vient de trois manières. Ben, il vient en personne. Il vient comme le ressuscité. Quant à moi, je suis tous les jours avec vous, jusqu'à la fin du monde. Si ce n'est pas la venue de Jésus, ça, ben alors c'est quoi d'autre? Donc Jésus vient tous les jours. Et puis Jean 20, ce jour-là, les portes étaient fermées à l'endroit où se trouvaient les disciples, par crainte des Juifs. Jésus vint, debout au milieu d'eux, il leur dit, la paix soit avec vous. Et trois jours plus tard, Jésus vint, lorsque Thomas était là. Donc Jésus vient toujours en personne. Deuxième point, Jésus vient toujours par le Saint-Esprit. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, et vous enseignera toutes choses, et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il y a d'autres textes, Jésus vient par le Saint-Esprit. Et puis, alors, bien sûr, cela ne récuse pas la venue de Jésus à la fin des temps. Apocalypse 22, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc voilà, mais il faut bien savoir que lorsque le Nouveau Testament parle de venir pour Jésus, il ne renvoie pas tout cela à la fin des temps. Il dit, mais il vient dès maintenant, aujourd'hui. Et aujourd'hui, préparez-vous, maintenant, préparez-vous, c'est-à-dire disposez-vous à vivre maintenant cette église, cette venue. C'était mon premier point. Deuxième point biblique, il ne faut pas que le discernement des disciples devienne un discernement des astrologues. Il ne faut pas que le discernement des disciples développe un discernement même d'astronomes, voire d'astrophysiciens, encore moins d'astrologues. C'est deux choses tout à fait différentes. Le discernement du disciple, ça nous invite à la prière, à l'amour, au don de soi. Et j'ai beaucoup aimé les prières qui sont sorties. Nous formons un tout dans ce culte. Le discernement des astrologues, des astronomes, des astrophysiciens, ils cherchent des conjonctions de planètes, ils cherchent des événements, ils cherchent des arrivées d'astéroïdes sur la Terre qui vont faire des cratères, comme le cratère qui s'est produit en Russie en 1907, etc., etc. C'est deux discernements tout à fait différents. Écoutez un texte magnifique d'Ésaïe. Ésaïe 47, versets 12 à 15, mais seulement le verset 13. « Tu t'es épuisé à force de consulter les astres. Qu'ils se présentent donc et te sauvent ceux qui détaillent le ciel, qui observent les étoiles et qui annoncent chaque mois ce qui va fondre sur toi. » Notez ce texte, il est crucial. « Tu t'es épuisé à force de consulter les astres. » Et ça, je trouve magnifique qu'Ésaïe nous le dise à l'époque. Ensuite, le Nouveau Testament nous dit une chose toute simple qui est assez étonnante. Habituellement, le Nouveau Testament nous exhorte à être très spirituel. Vous savez, on a tendance dans nos églises à opposer sagesse humaine et spiritualité. Moi, je découvre dans 2 Thessaloniciens, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Intéressant. Donc, il faut faire marcher notre jugeote et notre bon sens. Et je vous assure que dans toutes les énoncés qui annoncent le retour du Seigneur, il y a des choses qui peuvent paraître intéressantes, mais il y a toujours, à un endroit donné, quelque chose qui choque le bon sens. Donc, c'est un fondement biblique que je vous apporte ici. Et troisième et dernier fondement biblique, quatrième, si on vous dit « il est là », n'y allez pas, surtout pas. Si on vous dit « Jésus est là » ou « ça va se manifester comme ceci, ça va être comme cela », n'y allez surtout pas. Les raisons théologiques, ce sera peut-être un peu plus profond. Il y a à vouloir vraiment décrypter la Bible comme étant un livre de pronostics et d'anticipation de l'avenir, ça nous donne un rapport malsain à la Bible. Parce que voyez-vous, la Bible n'est pas un livre de secrets kabbalistiques. Toutes les religions ont développé des rapports kabbalistiques, en particulier le judaïsme, où vous savez, chaque lettre a son sens, parce qu'il y a une lettre ici, il y a une autre lettre après. Et puis si vous regardez les lettres et vous les mettez comme ça, vous verrez les messages secrets. J'invente ? Personne n'a entendu parler des messages secrets dans la Bible ? Alors, donc moi, ça fait 40 ans que je connais ces histoires. Et d'avoir fait un peu d'hébreu et de savoir que nul n'a le texte originel, ça me fait toujours rire lorsqu'on me parle message secret. Parce que personne n'a le texte originel. Donc on est en train dans des fantasmes complètement qui frisent la pathologie. Donc la Bible n'est pas... Non, c'est vrai, j'entends. La Bible n'est pas un livre kabbalistique. Et d'ailleurs, c'est intéressant, je me suis mis à relire l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, il est dit... Je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit au dedans et au dehors et au dos, scellé de sept sceaux. Et on nous dit, mais attention, l'Apocalypse est un livre scellé. Mais on continue la lecture. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des sept sceaux, et ainsi de suite, l'agneau a ouvert tous les sceaux du livre. Mais plus loin, Apocalypse 22, il est dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre. Donc l'Apocalypse n'est pas du tout un livre scellé, mystérieux, qu'il faut décoder. Je me souviens dans mon adolescence, on me disait le cheval noir, c'était la guerre de 14, le cheval blanc, c'était la guerre de... le cheval rouge, la guerre 39-40... Non, le cheval rouge, c'était... Enfin, peu importe. Bref, on m'expliquait tout, puis moi, je croyais tout. Voilà. Donc, l'Apocalypse n'est pas un livre scellé, et il n'y a aucune raison d'essayer de trouver des interprétations à des choses qui ne sont qu'allégoriques. Deuxième raison, dès que l'on construit un scénario interprétatif, on quitte l'attitude d'écoute du disciple. Voyez-vous, dès qu'on a dit, mais voilà, je vous explique que, vous n'êtes plus disciple. Le disciple, c'est celui qui est constamment à l'écoute. Mais dès qu'on a dit à une personne, maintenant je t'ai expliqué que ça va se passer comme ça, vous allez dire, ben merci, maintenant je sais. Je n'ai plus besoin de rester dans une dynamique d'écoute. Et ça, c'est une raison théologique très profonde. Troisième raison, c'est que le signe, vous connaissez cette expression, quand le sage montre la lune du doigt, quand quelqu'un montre la lune du doigt, le sage regarde la lune et le sot regarde le doigt. C'est exactement la raison des symboles. Lorsqu'on donne un signe, lorsqu'on donne un symbole, le symbole regarde, le symbole oriente vers le signifié. Et le signifié, c'est Jésus-Christ. Donc le signe n'est pas intéressant en lui-même. Ce qui est intéressant, c'est le signifié, Jésus-Christ. Et c'est encore à la recherche de Jésus-Christ que je dois investir toute mon énergie. Si j'investis de l'énergie dans le doigt, dans le signe, je perds mon temps. Puis la dernière raison, qui est probablement la plus importante, c'est que, chers amis, l'avenir, c'est Dieu. L'avenir, c'est Dieu. Je ne comprends pas cette idée. J'ai travaillé cette thématique depuis des années et des années. J'avais fait même une petite brochure en son temps. On a toujours tendance à penser, et là, il nous faut changer de mentalité, de dire que l'eschatologie, c'est-à-dire la science de l'avenir, l'eschatologie consiste à décrypter une histoire écrite d'une manière anticipée. Il y a, je ne sais pas trop où, une histoire écrite qui m'est cachée, que je ne connais pas. Alors, il me faut décrypter cette histoire pour comprendre ce qui va m'arriver. Mais c'est comme si l'histoire était un événement autonome. C'est comme si l'histoire, en particulier l'histoire future, existait en tant qu'entité propre, comme si elle avait son existence, sa logique. Une logique que je devrais découvrir au travers de la Bible. Mais c'est tragique. Il n'y a pas d'histoire en dehors de Dieu. L'avenir, c'est Dieu. Et quand Dieu dit une chose, eh bien, ça peut se faire ou ça ne peut pas se faire. Par exemple, pourquoi je vous choque ? Dieu dit, je vais détruire Ninive. Ben non, ça ne se fera pas. Parce que Dieu a dit autre chose. Dieu est capable de dire une chose à un moment donné. Et Dieu, dans sa souveraineté merveilleuse, il est capable de dire... une autre chose. Quand Dieu dit au méchant, tu mourras, si le méchant revient de son mauvais chemin, il vivra. C'est dans la Torah. Si Dieu dit au juste, tu vivras, Si le juste s'éloigne, il mourra. Donc, on est constamment dans un flux de vie qui n'a rien à voir dans une espèce d'histoire à décrypter. Et j'aimerais vraiment, c'est la conclusion de mon message, oui, c'est la conclusion, j'aimerais vous libérer et vous dire, mais il n'y a rien à chercher, à fouiller, à essayer de comprendre et à regarder, parce que ça n'existe pas. C'est uniquement des constructions abusives que certains se sont fait dans leur tête. Il n'y a pas d'histoire programmée. Même les événements dont la Bible nous parle. Ah oui, on m'a beaucoup parlé de la tétrade, quatre lunes particulières à l'heure actuelle. Alors, c'est vrai, j'ai réfléchi à ça. Alors, c'est vrai que dans les Écritures, il y a souvent l'annonce d'événements cosmiques. Mais pourquoi ça? Et ces événements, en fait, ne doivent plus nous parler maintenant. Et pourquoi cela? Parce que du temps des Écritures, il n'y avait pas de moyens scientifiques pour anticiper sur les événements cosmiques. Donc, les événements cosmiques surprenaient les gens. Donc, c'était normal d'être surpris par les événements cosmiques. Et puis, d'autre part, il y avait des événements cosmiques réellement inédits. La nuit sur le Golgotha à 12 heures, là, c'est un événement cosmique imprévisible, inexplicable, totalement eschatologique, totalement fruit de la volonté de Dieu qui, par là, je le disais dernièrement d'une manière magistrale, la nuit, c'est quoi dans les Écritures? La ténèbre, c'est la présence de Dieu. Dieu réside dans les ténèbres, dans la ténèbre, on devrait dire. Mais là, c'est un long développement. Dieu réside dans la ténèbre du lieu très saint. Eh bien, Dieu a fait en sorte que la ténèbre du lieu très saint couvre toute la terre lorsque le Fils de Dieu s'apprêtait à mourir. Donc toute la terre est devenue le lieu très saint au moment où Jésus a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Toute la terre est devenue le lieu très saint. Et c'est pour ça que là, il y a un événement cosmique qui a atteint toute la terre. Donc ça, je le prends comme un signe de Dieu. Mais nous dire qu'il y a quatre lunes qui vont s'aligner, maintenant, ce n'est pas du tout un miracle qui nous vient du ciel, c'est le fruit du calcul des mathématiciens et des astrophysiciens. Donc, ce serait dramatique de dire que c'est les astrophysiciens qui vont déterminer le retour de Jésus. Si on me dit, en 2015, il y a tel et tel événement cosmique, ça va me dire, ben oui, c'est les astrophysiciens qui vont déterminer le retour de Jésus. Donc, le futur, l'avenir, c'est Dieu lui-même. Alors, il me faut conclure. Oui, Jésus peut revenir en septembre. Qui suis-je pour le nier? Tout à fait. Ce serait une excellente nouvelle. Mais je n'ai ni à la justifier, ni à militer pour la faire connaître, ni à spéculer sur cette nouvelle, ni à me laisser influencer par cette nouvelle. Si je prépare mon mariage, et vous avez vécu le vôtre ce début d'août, eh bien, heureusement pour vous, et continuez de vivre en marié heureux. Si d'autres parmi vous préparent leur mariage, continuez de le préparer. Si vous êtes dans des travaux de rénovation de votre maison, investissez dans votre maison. Si vous faites des études, poursuivez votre cycle d'études. Quoi qu'il soit, allez-y, vivez, parce qu'il n'y a aucune raison de nous laisser parasiter par quelque annonce prophétique que ce soit. La seule chose qui est importante, c'est d'aimer et servir le Seigneur et non pas aimer et servir l'eschatologie. Et c'est ça le danger si on s'attache à ces prédictions. Et ma conclusion, et après vous pouvez remettre, on remet la vidéo? Oui, vous pouvez remettre la vidéo? Mais oui, puis il y a la Sainte Cène, puis ensuite une musique encore. Alors après, la conclusion, c'est la suivante. C'est la conclusion de Daniel. Je trouve génial la manière dont le texte termine les fabuleuses prophéties de Daniel. Les prophéties de Daniel, c'est pas rien, c'est du costaud, c'est de la viande, hein, c'est du bœuf, c'est costaud. Eh bien, la fin de la prophétie de Daniel, « Et toi, marche jusqu'à la fin, tu te reposeras et tu te lèveras pour recevoir ton lot à la fin des jours. » Mais je trouve ça fabuleux. Dieu n'a pas dit à Daniel, évidemment, Daniel l'a mis par écrit, mais Dieu n'a pas dit à Daniel, tu vas militer pour faire connaître, etc., etc. Mais non, en ce qui te concerne, sois fidèle et va de l'avant. Et puis une autre conclusion, c'est dans une épître de Jean, 1 Jean 2, 28. « Maintenant, mes enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'aucune honte ne nous fasse nous éloigner de son avènement. » Vous avez entendu, il ne s'agit pas de spéculer, il s'agit simplement de demeurer dans le Seigneur, de l'aimer et d'être des disciples attachés au Christ. Amen.